Alors, bonjour. Bonjour Angelos Triantafylou, bonjour Marion Bertin. Donc, Angelos Triantafylou, vous êtes doctoresse lettres, vous enseignez à l'Université de Versailles. Vous êtes spécialiste de la poésie d'André Breton et de Gilles Deleuze, et vous avez notamment publié « Images de la dialectique et dialectique de l'image » dans l'œuvre théorique et poétique d'André Breton, donc aux presses universitaires du Septentrion. Et vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'ouvrir le regard vers la littérature en évoquant la poésie d'Édouard Glissant et de sa recherche du peuple qui manque. Donc, on va en savoir plus un petit peu plus tard. Marion Bertin, vous êtes docteur en anthropologie, vous êtes chercheuse au centre Norbert Elias et vos recherches portent sur les circulations et les valeurs des objets océaniens dans les collections privées et publiques depuis les années 1980. Pardon. Donc, votre communication, va porter sur le cas du patrimoine kanak dispersé, ainsi que sur l'étude de la base de données de l'IPKD, donc l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Donc, pour tous les deux, il va s'agir d'exposer et de comprendre les mécaniques de recherche d'un peuple perdu ou d'un patrimoine disparu. En effet, selon Édouard Glissant, et je pense que vous serez tous les deux d'accord avec cette affirmation, l'histoire de l'Occident est une histoire des manques contre lesquels il faut lutter. Comment lutter? Comment compléter ou réparer ces manques? Nos deux intervenants vont tenter, et je suis sûre qu'ils le feront à merveille, de nous fournir des éléments de réponse. Marion Bertin, je vous en prie, c'est à vous.
Merci beaucoup pour votre introduction et merci à l'ensemble des organisatrices de ce bel événement dont la thématique et l'appel à communication m'ont particulièrement stimulée. Donc effectivement, ma communication part d'un cas d'étude sur lequel je travaille depuis plusieurs années à présent, qui est donc le patrimoine kanak dispersé. Cette notion désigne les objets kanak originaires de Nouvelle-Calédonie, qui, je le rappelle, est une collectivité française d'outre-mer sui generis avec un statut administratif unique. Objets qui sont donc aujourd'hui conservés dans des musées hors du territoire. Ces objets sont absents du territoire dont ils sont originaires. Ils sont par ailleurs dispersés à travers le monde. Un processus d'inventaire sur lequel je reviendrai plus longuement par la suite a permis de recenser 110 musées en conservant des objets kanak disséminés dans le monde, plus particulièrement, comme on le voit sur cette carte, en Europe et encore plus particulièrement en France hexagonale. À travers ce cas d'étude, je souhaite donc aujourd'hui questionner l'absence à divers égards. Dans un premier temps, je reviendrai sur la genèse du patrimoine kanak dispersé et l'inscription de l'absence au cœur même de sa patrimonialisation. Par la suite, je préciserai ce qu'est le patrimoine kanak dispersé, comment il se matérialise et comment il vise justement à renouer avec des objets absents du territoire calédonien et dispersés. Enfin, pour introduire un dernier niveau de réflexion, je me proposerai de réfléchir à ce que le patrimoine kanak dispersé n'est pas, en réfléchissant donc en miroir à ce qui en est exclu et donc absent de ce patrimoine. En réalité, donc, le patrimoine kanak dispersé naît d'un constat d'une absence. En 1975 est organisé à Nouméa le premier festival dédié aux arts mélanésiens qui prend le nom de Mélanésia 2000. Jean-Marie Tchibaou, qui devient par la suite une figure majeure au niveau politique pour l'affirmation identitaire et politique kanak, préside le comité d'organisation. Ce festival est un moment énorme, absolument majeur dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, c'est un événement qui permet la réunion de l'ensemble des aires coutumières kanak qui se rencontrent, qui discutent et qui procèdent à tout un ensemble de manifestations culturelles. À l'issue du festival, un constat s'impose pour Jean-Marie Tchibaou, c'est la quasi-absence de sculpteurs sur bois présents lors de Mélanésia 2000, en raison d'une perte des savoirs techniques due à la colonisation et à tout l'ensemble des réglementations qui ont interdit ou nié le patrimoine kanak. Partant de ce constat, Tchibaou va mandater Roger Boulet, qui est alors chargé de mission au Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie à Paris, pour effectuer une mission de repérage des objets kanak anciens conservés dans des musées en France hexagonale et en Europe. L'objectif est double pour Tjibaou, puisque d'une part, il s'agit de proposer des modèles aux sculpteurs pour stimuler la production contemporaine, dans une volonté d'affirmation culturelle et identitaire, en diffusant justement les images de ces objets auprès de sculpteurs qui peuvent ensuite s'en inspirer pour leur production actuelle. Et d'autre part, il s'agit de savoir ce que sont ces objets, comment ils sont conservés et ce qui est dit sur le peuple kanak. C'est de cette initiative que naît véritablement le patrimoine kanak dispersé. À partir de 1979, Roger Boulet mène des missions régulières dans les musées européens avec le soutien des institutions patrimoniales de Nouvelle-Calédonie, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui est créé en 1998 et de l'État français. Entre 2011 et 2015, c'est une mission de plus grande envergure qui prend le nom officiel d'inventaire du patrimoine kanak dispersé qui est organisée avec le soutien et le financement du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Cette mission réunit un plus grand nombre de chercheurs et de chercheuses, dont Emmanuel Casarerou, qui est aujourd'hui le président directeur du musée du Quai Branly Jacques Chirac, ainsi que Marianne Tissandier, qui est conservatrice, restauratrice et responsable des collections du musée de Nouvelle-Calédonie. Cette mission permet d'intensifier tout le travail d'inventaire avec des missions en Europe et permet vraiment un repérage plus rapide. Le patrimoine kanak dispersé se concrétise donc par deux types de projets qui sont complémentaires. Tout d'abord, il prend la forme d'un catalogue raisonné d'objets réunis sur une base de données numérique administrée par le musée de Nouvelle-Calédonie en la personne de Marianne Tissandier, qui est donc cet inventaire du patrimoine kanak dispersé. D'abord disponible uniquement aux consultations internes au musée de Nouvelle-Calédonie à partir de 2015 à la fin de la mission, cette base de données est aujourd'hui mise en ligne progressivement depuis novembre 2022 grâce à une publication progressive des fiches d'objets qui sont recensées. Environ 5100 objets conservés dans 110 musées à travers le monde bénéficient ainsi d'une fiche individuelle. Chaque fiche, aujourd'hui, donc il y en a 743, enfin hier, il y en avait 743 qui étaient mises en ligne sur ces 5100. Chaque fiche comprend des informations d'identification standardisées dans le monde des musées qui présentent donc le type d'objet, le lieu et la date de création, le nom du créateur, qui est régulièrement, pour le cas des objets kanak, qui est le plus souvent non connu, la localisation de ces objets et le musée dans lequel ils sont conservés, la matière et les techniques, ainsi que quelques mentions d'histoire des collections. Certaines fiches d'objets incluent également des documents d'archives qui ont été fournis par les musées qui les conservent au moment des missions d'inventaire. Avant sa mise en ligne, la base de données a principalement été consultée par des artistes, qui étaient donc les premiers et les premières visés par l'initiative de Jean-Marie Tjibaou, et dans le cadre de recherches universitaires ou muséales. La mise en ligne récente permettra certainement d'étendre le nombre et le type d'usagers et d'usagères de cet inventaire. L'inventaire a également servi d'appui au second type de projets qui ont été mis en place, puisque sur la base de l'inventaire réalisé, des objets kanak ont pu être sélectionnés pour effectuer des retours temporaires en Nouvelle-Calédonie. L'exposition de Jade et de Nacre, présentée en 1990 au musée territorial de Nouvelle-Calédonie, puis au musée des arts d'Afrique et d'Océanie à Paris, a ainsi réuni 150 objets kanak de collections hexagonales et européennes, pour la première fois réunis à nouveau à Nouméa, et qui étaient, pour certains, pour la première fois exposés, puisqu'ils étaient, c'était des véritables redécouvertes dans les collections. Certains objets qui ont été présentés dans cette exposition sont toujours en dépôt à Nouméa. Entre 1998 et 2013, le programme des objets ambassadeurs de la culture kanak, mené principalement par l'Agence de développement de la culture kanak avec le soutien de l'État français, permet l'exposition de 73 objets, toujours kanak, par roulement et changement tous les 3 à 7 ans, objets qui sont exposés au Centre culturel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa. Dans les archives, je n'ai trouvé aucune trace, à nouveau sur l'histoire des sources, etc. C'est assez intéressant. De ce projet, dans les archives, ne reste aucune trace de l'exposition des objets. La seule photographie que j'ai pu retrouver est donc, figure donc dans cette thèse de Olivier Fandeau, soutenue en 2001, qui montre une présentation des objets à Nouméa. Enfin, l'exposition « Canaclar est une parole » organisée par le musée du Quai Jacques Chirac, le centre culturel Jean-Marie Tjibaou et le musée de Nouvelle-Calédonie s'est tenue à Paris puis à Nouméa en 2013 et 2014 et a servi de clôture au programme des objets ambassadeurs. Des projets de mise en dépôt d'objets à Nouméa sont actuellement poursuivis par le musée de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de sa réouverture en 2024. Il me semble pertinent aussi de s'arrêter sur le choix du vocabulaire, ce qui a déjà été fait par mes collègues qui m'ont précédé. Le choix du terme dispersé est intéressant puisqu'il permet vraiment d'insister, à mon sens, non pas tant sur les modalités par lesquelles les objets kanaks anciens ont quitté leur territoire d'origine, mais sur les conséquences et la réalité actuelle, c'est-à-dire le fait que les objets, autrefois réunis en Nouvelle-Calédonie, sont aujourd'hui absents. Cet adjectif est évidemment aussi révélateur d'un important éparpillement géographique, puisque les objets sont donc éclatés à l'échelle mondiale. L'IPKD, par sa base de données, donne matériellement, virtuellement, à voir l'absence des objets, tout en les réunissant à nouveau dans un nouvel espace numérique. Cette base de données en ligne permet également une présentation et une accessibilité des informations liées aux objets kanaks dispersés, notamment en Nouvelle-Calédonie, transcendant l'absence et la distance. Les retours d'objets sont complémentaires à cela, puisqu'ils lui permettent quant à eux une accessibilité physique des objets et non plus seulement virtuelle. Le patrimoine kanak dispersé met aussi au défi et adapte la définition du patrimoine en reconnaissant une filiation et un attachement patrimonial malgré la distance, l'éloignement entre les objets et les descendants et descendantes de celles et ceux qui les ont créés et qui s'en revendiquent aujourd'hui culturellement, et malgré le départ de longue date, long de plusieurs siècles, des objets hors de Nouvelle-Calédonie. C'est finalement l'absence elle-même et son interprétation qui constituent le cœur de la définition patrimoniale et du processus de réappropriation de ces objets du patrimoine kanak dispersé par le peuple kanak. Par ailleurs, par rapport à la réflexion qui réunit aujourd'hui sur les silences de l'histoire, le patrimoine kanak dispersé offre l'opportunité d'interroger les hiérarchies de pouvoir, de questionner qui a la parole et l'autorité pour écrire les savoirs et l'histoire liée au patrimoine. La patrimonialisation de ce patrimoine renverse d'une certaine manière les hiérarchies en se recentrant sur la Nouvelle-Calédonie en tant que patrimoine d'origine des objets, puisque le terme de dispersé considère la Nouvelle-Calédonie comme le cœur même de le point de départ. Ce que ne montrent pas les cartes, ce qui est assez intéressant et qui peut ouvrir à la discussion. Ce patrimoine est également héritier d'un point de vue militant kanak porté par Jean-Marie Tjibaou, bien qu'une ambiguïté se pose par la suite, puisque les institutions de Nouvelle-Calédonie et l'État français soutiennent ensuite tous les projets mis en place. Ainsi, en 1998, le document d'orientation de l'accord de Nouméa, signé entre des représentants de l'État français du Front de libération nationale Kanak socialiste et du Rassemblement pour la Calédonie dans la République, qui sont les deux principaux partis politiques en Nouvelle-Calédonie, consacre un paragraphe au patrimoine culturel ainsi qu'un alinéa précisément dédié aux objets culturels. L'État y reconnaît alors que le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé. Dans ce document, l'État s'engage également pleinement en faveur des retours d'objets culturels kanak sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. À mon sens, les projets autour du patrimoine kanak dispersé, la reconnaissance de ce patrimoine, sont aussi centraux dans les négociations et dans le partage de pouvoirs qui sont établis depuis les années 1980 entre l'État français, la Nouvelle-Calédonie et le peuple kanak,
tout en participant à une visibilité et une reconnaissance d'une histoire coloniale qui est toujours présente. Dernier point de mon exposé, je souhaiterais questionner un dernier niveau d'absence à travers ce qui ne fait pas partie du patrimoine kanak dispersé. Cet exercice en miroir permettra donc de souligner ce qui en est exclu et ce qui est à nouveau absent. Premièrement, la base de données de l'IPKD ne concerne que les collections dispersées et n'inclut donc pas les collections d'objets kanak qui sont conservées dans des musées et des centres culturels en Nouvelle-Calédonie, qui sont, pour citer Marianne Tissandier, par nature non dispersées. En particulier, le musée de Nouvelle-Calédonie, qui est héritier du musée colonial fondé au début du XXe siècle, conserve l'une des plus importantes collections d'objets kanak en termes de nombre d'objets, de leur ancienneté et de la représentativité des différentes aires coutumières kanak. Les collections sont également accessibles en ligne, mais sur une base de données qui est distincte de celle de l'IPKD pour bien marquer la différence entre les deux types de collections. Deuxièmement, l'IPKD ne concerne que les objets conservés dans des musées, qu'ils soient privés ou publics, mais n'inclut pas les objets qui circulent sur le marché de l'art. Cela s'explique notamment par le manque de moyens humains et financiers qui ont été investis dans le processus d'inventaire, notamment au début où seul Roger Boulet sillonnait l'Europe pour recenser des objets. Le musée de Nouvelle-Calédonie s'est déjà porté acquéreur d'objets sur le marché de l'art et mène une veille des objets kanak passant en vente de manière régulière. Quelques objets kanak vendus le plus récemment bénéficient ainsi, sont recensés, bénéficient de fiches individuelles qui sont présentées sur la version intranet de l'IPKD accessible au musée de Nouvelle-Calédonie, mais ces fiches ont-elles vocation à être mises en ligne ? C'est une question qui reste pour le moment ouverte. Je fais un pas de côté pour mentionner le choix qui a été fait par mes collègues du projet Digital Benin, qui est un projet qui est assez similaire sur certains points, qui ont fait le choix de ne pas inclure les collections privées pour éviter de faire monter les prix des bronzes et des objets issus du pillage de la ville de Benin City au Nigeria sur le marché de l'art. Troisièmement, l'inventaire du patrimoine kanak dispersé n'est pas un inventaire à proprement parler, qui aurait pour objectif de recenser de manière exhaustive tous les objets kanak conservés dans des musées à travers le monde. Sur les quelques 17 000 objets kanak dénombrés dans 110 musées internationaux, seuls 5 100 bénéficient d'une fiche individuelle et sont donc intégrés à l'IPKD. En réalité, cet IPKD est un catalogue raisonné d'objets qui sont choisis en fonction de leur provenance, de leur histoire, des circonstances de leur collecte, de leur valeur esthétique ou de leur état de conservation, pour citer la page qui est dédiée à cet inventaire sur le site internet du musée Nouvelle-Calédonie. Parmi les objets exclus de l'inventaire figurent notamment un certain nombre d'armes et les objets qui sont en mauvais état de conservation. On peut s'interroger sur les critères de sélection, sur ce qui distingue donc une arme intéressante d'une autre présentant un intérêt limité, sur ce qui permet de discriminer un objet en trop mauvais état de conservation d'un objet présentant des lacunes dues à sa vie sociale et à l'histoire des collections. Qui fixe et définit les critères? Comment les différentes personnes qui ont travaillé sur l'inventaire se sont-elles accordées en réalité pour les définir et ne pas faire seulement un avis personnel, mais que ce soit une logique commune. En quoi ces critères sont-ils représentatifs? Et notamment, en quoi l'IPKD est-il vraiment représentatif des collections kanak existantes et de l'histoire des collectes et des contacts s'il ne donne pas clairement à voir les ratios dans les types d'objets qui ont pu être collectés, notamment la surreprésentation des armes qui témoignerait véritablement d'un imaginaire stéréotypé entourant le peuple kanak qui a longtemps été considéré de manière péjorative. Autre absence à noter, c'est celle des restes humains qui ne sont pas inventoriés dans cet inventaire. Je reviendrai là-dessus à la toute fin de ma présentation en conclusion, mais à l'heure actuelle, seul un reste humain a été demandé en restitution et a été restitué à la Nouvelle-Calédonie par le Musée de l'Homme et donc par le Muséum national d'histoire naturelle, au contraire des objets au sens d'artefacts. On note aussi l'absence du patrimoine dit naturel, bien que des collectes mixtes, pour reprendre l'expression de Serge Reby, et qui regroupaient donc des artefacts culturels produits par le peuple kanak et des témoignages de la faune et de la flore calédonienne, aient été menées au XIXe siècle et au XXe siècle. Ces collections ont ensuite été divisées au moment en réponse à l'histoire des disciplines scientifiques entre sciences sociales et culturelles d'une part et sciences naturalistes d'autre part. Les muséums d'histoire naturelle actuels conservent souvent de tels fonds qui sont éclatés entre les disciplines et qui ne répondent donc ni à l'histoire des collectes, ni au mode de pensée kanak, pour qui la dichotomie nature-culture n'est pas opérante. Je passe plus vite sur la question du patrimoine immatériel qui est également absent de l'IPKD pour m'arrêter sur une dernière absence à signaler qui permettra de clôturer ma présentation et qui permet d'expliciter davantage la position défendue par la Nouvelle-Calédonie pour les objets kanak anciens. C'est tout ce qui relève de la mémoire orale et de l'histoire précise des objets et de leur circulation. Comme je l'ai indiqué, l'IPKD indique les provenances des objets au sens des collections antérieures et des donateuristes ou des légataires qui en ont fait, permis leur acquisition au sein d'un musée. Toutefois, les modalités précises de collecte des objets restent bien souvent inconnues. Sous le terme même de collecte, existe une large diversité de pratiques, que ce soit des pillages, des ventes volontaires ou forcées, des vols, des échanges ou encore des cadeaux. L'absence d'informations plus précises et assez communes à d'autres types d'objets originaires de contextes coloniaux sur lesquels les archives restent silencieuses. Dans le cas kanak, et contrairement à d'autres territoires, c'est justement cette absence et ce silence qui justifie que les objets soient revendiqués comme patrimoine dispersé, ce dont témoigne cette citation d'Emmanuel Casarerou évoquant les premiers retours d'objets en Nouvelle-Calédonie en 1990. C'est également cette importance s'explique par l'importance de l'oralité et de la parole qui accompagne les échanges d'objets. Ces paroles sont les raisons mêmes de l'échange et nouent en même temps une relation. Malheureusement, l'absence de conservation de ces paroles, qui sont normalement transmises de génération en génération, constitue un important silence dans l'histoire des collections kanak aujourd'hui, auquel le peuple kanak et les institutions culturelles et patrimoniales calédoniales se sont donc adaptées. Les objets kanak dispersés dans le monde sont devenus, pour le peuple kanak, des représentants culturels de ce peuple kanak passé et actuel, qui porte et donne à voir une culture passée et présente, qui justifie aussi leur importance, l'importance d'affirmer la présence du patrimoine kanak dispersé à travers le monde et qui justifie l'absence de demande de restitution au sens d'un transfert de propriété de ces objets. Pour citer Marie-Claude Chibaou, veuve de Jean-Marie Chibaou, ces objets, en étant conservés dans des musées à travers le monde aujourd'hui, portent en eux la parole kanak d'hier et celle d'aujourd'hui. J'espère que cet exemple a pu donc contribuer à la réflexion sur les silences de l'histoire et la manière de révéler et de faire exister l'absence, en faisant donc écho ici à la question des restitutions ainsi qu'aux dimensions matérielles et immatérielles du patrimoine. Et je me tiens disponible pour prolonger la discussion à travers des questions.
Merci beaucoup Marion Bertin pour cette très riche présentation qui nous montre comment aujourd'hui documenter la trace, documenter l'absence. On va tout de suite enchaîner avec la littérature avec Angelos Triantafilou.
Oui, je voudrais vous remercier et remercier d'abord les organisatrices de ce colloque, de m'avoir invité et d'avoir intégré ma vision plutôt littéraire, poétique et philosophique dans un cadre beaucoup plus technique, pratique et très intéressant malgré tout. Donc, je vais vous parler justement de la pensée d'Edouard Glissant, que j'avais la chance de connaître, donc ça m'a touché particulièrement. Et parler de la question de trace, de manque, et justement du peuple qui manque. C'est une idée qui revient souvent chez Glissant. Dans le discours à Dillet, Glissant attribue au poète des Antilles la capacité de réactiver la conscience de la communauté, ce qui le rend à la fois ethnologue et historien de soi-même et de sa pensée, ce qui présuppose aussi une acuité et une ambiguïté paradoxale. L'œuvre de Glissant reflète ce paradoxe. Ethnologue de formation, se réclamant de Michel Leiris ou de Victor Segalen, propose une ethnographie de la relation et du devenir, une ethnopoétique de la culture antillaise qui à la fois est objective et subjective, le protégerait de parti pris, des victimes ou des offuscations de bourreaux. Même si son alter ego, Mathieu Belluz, se présente comme un historien et archiviste expérimenté, et Glissant déclare de ne pas être un bon archiviste et de souhaiter tromper les historiens qui chercheraient les clés de ses comptes. Ce qui est paradoxal quand on sait que Glissant s'impliquera activement à la création de la fondation d'un centre national pour la mémoire des esclavages et de leurs abolitions. Et selon son projet, il a voulu suivre au plus près ce que d'autres archivistes, historiens, historiographes, sociologues, anthropologues auront accumulé. Glissant assume ce paradoxe en expliquant que le savant, l'historien, l'homme d'action, par exemple Hegel, Darwin ou Che Guevara, peuvent se tromper, mais que leur pensée non systématique ne déçoit pas. Ainsi, quand il dote le centre des esclavages d'un mémorial, il le dédie non seulement à la mémoire réclamée, mais aussi à la mémoire raturée, aux absences d'histoire. De même, s'il y ajoute un centre d'archives, il ne le conçoit pas comme un fonds magique réservé aux chercheurs, mais comme un ensemble archivé de ruines, catastrophes, cyclones, ensemble souffrant, incertain et ambigu, dont il ne reste à comprendre que la complexité de cette absence. Pour résumer cette absence, Glissant fera appel à un extrait de Deleuze qui parle du manque et sur lequel on va revenir plus tard. C'est Glissant, le manque et la conscience du manque, le manque consenti, sont constitutifs de l'être et de la poésie. Ce qui manque est le poème, l'écrit, la parole, la mémoire, le vent qui saurait unir le monde et libérer des manques. Glissant expliqua dans l'intention poétique que c'est dans cette absence, ce silence et ce rentrement que je noue dans la gorge mon langage, qui ainsi débute par un manque, et mon langage, raide et obscur, ou vivant ou crispé, est ce manque. Pour conclure, dans l'imaginaire de langue, 30 ans plus tard, il y avait tous ces manques contre lesquels il fallait lutter, et je crois pouvoir dire que j'ai essayé avec d'autres de pallier ces manques et reconstruire autre chose. Cette autre chose est sans doute la relation et l'incertain comme réponse à l'incertitude du manque. Mais il faudrait préciser au préalable que ni chez Deleuze ni chez Glissant, les phénomènes du manque n'ont rien de transcendant ni de freudien. Par manque, ils entendent plutôt les désirs, les virtuels, l'utopie, qui permettent d'accumuler les éléments du tout monde pour l'un, du plan d'immanence pour l'autre, de sorte qu'il n'en manque aucun. On peut en effet repenser ce que Deleuze dit à propos de la création des concepts en tant que volonté de construire une région du plan, ajouter une région aux précédentes, explorer une nouvelle région, combler le manque. Sous la lumière du tout monde, concept défini par Glissant comme une région qui ne nous a jamais manqué, elle était en nous et nous en elle, mais qu'il nous a manqué pourtant de voir. Glissant définit la culture comme la précaution de ceux qui prétendent à penser la pensée, mais se tient à l'écart de son chaotique parcours et par conséquent qu'aucune culture ni État n'a le privilège de fixer des frontières aux autres cultures. Toute son œuvre esquisse le conflit entre les œuvres d'art et les œuvres de la nature, les civilisations ataviques et les cultures diffuses, mais assumées, entre les cultures ineffaçables et les cultures menacées. Il précise qu'on ne peut ni démolir ni protéger une culture par la force ou par le concept. Pour conclure que pour arriver à une mémoire culturelle de la collectivité terre, il faudrait brisquer les liens d'aliénation entre les cultures. Ce qui rend difficile d'interroger les absences d'histoire ou de mémoire dans l'œuvre de Glissant, c'est qu'à ses yeux, ce qui manque n'est pas quelconque origine ou fondement de culture, rythme ou artefact, perdu dans les mythes et arraché de force à la matrice africaine, non seulement parce que pour Glissant, l'origine est une tension qui ne peut pas se perdre puisqu'elle change avec le monde, mais surtout car le manque, l'inconnu, le gouffre et l'origine, les cons même de ces rythmes et artefacts. L'art du peuple transbordé et l'art absent, celui des dépossédés, des déculturés qui ont camouflé derrière un cri d'animal la culture qui leur fut interdite. Si bien que pour Glissant, l'unique patrimoine qui apporterait avec eux le peuple transbordé serait l'absence tapageuse de culture et ces cris ne rendent que plus sensibles. Cris exprimant l'absence forcée de paysages, de créativité, de fonds culturels, de langues, de balises, de représentations, de coutumes, d'écritures, de mémoire, d'histoire et d'héros. L'œuvre de Glissant est une errance au-dessus de ces vides vertigineux. Par cette errance, le peuple transbordé, comme Mathieu Belluze, que Glissant appelle aussi le grand absent, fait du vide son espoir. Pour dépasser l'absence, Glissant regarde ce qui n'est pas présent comme une chance qui ouvre à d'autres cultures. C'est à Mallarmé ou à Rimbaud que Glissant emprunte la culture de l'œuvre absence, d'une absence lucide qui rompt avec les complaisances et des œuvres achevées et bornées. Comme Mallarmé et Rimbaud, Glissant cultive l'absence jusqu'à en faire une présence. Car malgré ses réticences vis-à-vis de la pensée dialectique qui restreint le chaos du monde, Glissant propose bien une dialectique non mécanique, la dialectique vêtue entre absence et présence. Il s'inspire même de la peinture de Mata et de la poésie de Bonnefoy. Mais à la différence de Mallarmé qui se servait de l'indicible pour arriver à une présence pure, Glissant veut montrer, parlant des peuples quechua par exemple, comment l'esclavage a mêlé le silence de l'histoire avec des présences invisibles, les agressant dans une présence concrète. Son principe est que ce qui est visible, qui peut sortir de l'absence, n'est jamais la souffrance, seul l'espoir des peuples survit. Raviver la présence dans l'imaginaire des peuples transbordés, c'est un procédé que Glissant reprend au conteur Zandillet, mais aussi à des poètes comme Ségalen, Char ou Bonnefoy, qui, contre l'impossibilité de la poésie, ont préservé l'écho de ce qui n'existe pas, le passé qui s'obstine, l'inextinguible réel incréé. Sauf que, se glissant la vérité des paroles, la présence concrète ne légitime ni n'est légitimée par une genèse fondatrice, par une communauté, par l'histoire occidentale. Désormais, pour les faire sortir de l'absence, le poème doit relier dans un ordre diversifié plusieurs mythes et histoires, paysages et langues, des communautés auxquelles l'histoire a dénié la présence dans l'histoire reconnue. Ce qui semble la dialectique politique poétique de ce qui est voilé, de son dévoilement, ne vise pas à révéler une vérité absolue, qui nierait sinon appauvrirait l'être collectif des cultures abîmées. Au contraire, le dévoilement servirait à retarder la révélation. Emprunté à la tragédie grecque et au roman de Faulkner, ce mécanisme lent de dévoilement part d'un secret ou d'une trace fondamentale pour entretenir la conscience collective de ce peuple. Sans doute, cette trace se confond avec les dieux, coutumes et langues que les transbordés ont sauvés du gouffre atlantique. Mais Glissant transforme ces grains invisibles en véritable traité sur la pensée de la trace pour les opposer aux pensées systématiques, à l'histoire et à ses entringlements. Glissant a souvent répété qu'il croit beaucoup à la notion de la trace, notion à ses yeux fondamentale. Définie comme pensée de l'esquive et comme art de l'approche et de l'effleurement, il décrit la pensée de la trace comme errance, assaut, route ni fermée ni inachevée, qui oriente vers les histoires abîmées. Il s'en sert pour fêler, diffracter l'histoire et les temps occidentaux. Fondée sur l'oralité réprimée des sons, le savoir de la trace incertain et ambigu sert à saper la pensée transcendantale occidentale des écritures. Il s'agit de généraliser l'art des traces et du marronnage. Comme les esclaves savaient retrouver sur le sable de la forêt les traces qu'ils avaient laissées fuyant les plantations pour s'en servir un jour, La poésie de Glissant retrouve les traces de cultures abîmées en rappelant qu'elle n'était absente qu'en apparence, qu'elle n'était invisible qu'aux yeux de leurs poursuivants et autres historiens occidentaux. Si l'histoire occidentale aime exhiber les fosses où furent terrés les héros sans nom, Glissant propose une autre histoire concrète, faite des traces laissées par les pieds des esclaves dans leur fuite. L'histoire devrait suivre la route de la trace, avec majuscule cette fois, de ces chemins de terre rouges tracés par les jésuites traversant l'île de la Martinique. L'histoire ne serait plus une rhétorique, mais une poétique qui féconde les traces sans les défigurer, poétique du lieu commun, dont les mots seraient les traces qui persistent des langues exterminées. Pour Glissant, le poème est le lieu d'un nouveau marronnage. Il ne préserve les traces historiques que derrière l'opacité allouée par la poétique, pourtant occidentale, de Mallarmé et Rimbaud. Par sa résistance à la transparence, entre autres psychanalytique, la forme du poème retarde le dévoilement des traces. Dans les vers du poème, les traces des cultures abîmées ne se dépouillent pas de leur histoire ni de leur pensée. Elles deviennent simplement opaques à l'histoire et à la pensée occidentale. Se glissant la poésie des traces et des opacités consenties, sert à protéger les esclaves, à réduire l'absence, l'invisibilité ou l'opacité que les mythes, les vérités et les transparences des Occidentaux imposent à leur nom, à leur culture. Glissant fait appel au droit de culture des noms des victimes, à l'opacité et à la poésie. Glissant n'oublie pas que les poètes, comme le peuple, laissent des traces, mais que c'est les savants qui les déchiffrent. Surtout puisqu'en philosophie d'Héridienne, la trace désigne la relation de l'être et de l'étant. Lors de leur débat à Strasbourg, Derrida reviendra sur l'usage que la trace, de la trace pour ses glissants, terme où, selon l'aveu de Derrida, l'un et l'autre se croisent au plus près, quoiqu'il n'entre pas aux implications de ces mots. Derrida se limite à réinterpréter la trace à la manière de Nietzsche comme double affirmation, corrigeant Glissant qui n'y voyait qu'une négation de l'affirmation occidentale de l'être. Évidemment, Glissant conçoit la trace à partir de Freud. Les traces des cultures abîmées renvoient aux traces mnésiques, inconscientes ou refoulées, que l'enfant doit relier pour en faire des souvenirs. Mais se référant aussi à Derrida, Glissant décrit la trace soit abstraitement, comme simulacre qui remplace et rature l'origine, la présence, l'être des Occidentaux, soit concrètement comme un texte raturé sous d'autres textes, une culture abîmée sous d'autres cultures. À la différence que même si, à l'instar de Derrida, Glissant interprète la trace et comme trace de l'effacement de la trace, il ne la conçoit pas pourtant comme mémoire qui s'efface en se réactivant. Les cultures abîmées ne se reconnaîtraient pas au dilemme derridien, ne serait ni une série d'effacements et de traçages, ni un texte sans voix gravé sur un mur, ni un mirage, ni un monument. Glissant dépasse cette opposition derridienne par une théorie de la mémoire abîmée comme manque et comme besoin. Ce n'est pas une mémoire historique rythmée par le calendrier de ce qu'on a laissé derrière l'abîme, ni même dans l'abîme atlantique. Cette mémoire est impossible de restituer, moins parce qu'elle est effacée, déracinée, mais car elle est innombrable, chaotique, défaillante. Elle n'est pas tourmentée car elle ne cherche ni la revanche ni l'oubli. La mémoire abîmée cherche quelqu'un, un poète, comme Glissant, pour la délivrer, la porter à la surface, la ranimer, la relier au quotidien, non comme un décor, ni comme une narration littéraire. La mémoire des abîmes a besoin de l'écriture épique, mais aussi les mémoires des colons pour s'identifier. Car si le colon n'a pas l'assise morale de forcer à se souvenir celui qui a voulu oublier, il peut se ressouvenir avec lui. Le rêve de Glissant est de coliser la trame historique et géographique des mémoires occidentaux et des mémoires abîmées dans un unique rhizome interactif de traces qui seul pourrait transformer l'abîme de mémoire en savane, réveillant aussi ces cultures assassinées qui n'ont laissé même pas de traces. C'est Patrick Samoiseau qui donna à la théorie de Glissant le nom de traces mémoire, préfaçant un album photographique sur les bagnes de Guyane. Il y oppose les gestes, les sons, les espaces de mémoires écrasées aux monuments coloniaux. Mais Glissant a toujours fait peu de confiance à la trace monumentale, l'accusant d'être massive, immuable ou fugitive, de ne transmettre pourtant que peu de mémoire. Pour Glissant, les monuments occidentaux sont toujours des prisons, non seulement parce qu'aux Amériques, les seuls vrais monuments occidentaux sont les ruines des cachots des esclaves, mais surtout parce que l'Occident enferme tout dans la pierre, depuis la poésie orale, depuis l'Iliade et l'Ancien Testament. C'est pourquoi Glissant préfère les villes sans monuments, ou avec des monuments incertains, fragiles, faits de terre, sans hommes. Il ne consent qu'à des monuments en honneur des peuples abîmés, les forêts du marronnage en Haïti, en Cuba ou en Martinique. Ou encore l'Atlantique, considéré comme un énorme mausolée. Ou enfin, les mémoires, comme c'est un avis au début, le mémorial de Cap 110, en sable de béton de 15 statues massives accroupies face à la mer, conçu en 1998 par Laurent Valère en Martinique, Alain Scaffard, et dans ses vers, Glissant appela promenoir de la mort celle pour les esclaves naufragés. Ce mémorial servit aussi de lieu de veillée à la mort de Glissant lui-même. C'était son choix. Le refus des monuments de la part de Glissant trouve sa justification dans un texte fort de la philosophie de la relation, où il se souvient avec intensité comment sa mère ne voulait pas être enterrée dans une tombe du cimetière du Lamantin, mais à même la terre, dans une fosse dont la trace entre deux monuments, secrète mais indubitable à ses yeux, est exempte de la sottise ou de la naïveté des architectures, comme il dit lui-même. C'est le choix que Glissant a fait aussi pour lui-même à sa mort. Dans son inquisitoire contre la colonisation intitulé « Sur un défaut de monument », datant de l'époque de l'indentation poétique, Glissant avertissait les futurs historiens des Adiyes. « Ne venez donc pas ici, vous n'y découvrirez nul monument. Avant d'en donner la raison un peu plus loin, notre passé n'est pas à nous. » En colère et en poète, Glissant passait alors en revue l'histoire de la dépossession. Sans englouti dans l'Atlantique, théâtre d'un peuple sans droit d'asile, pensée et magie remplacées à bas coût par des imitations de l'Occident. Si les Occidentaux reprochent aux Antilles un défaut de monument, Glissant s'en réjouit et dans un texte parallèle du même recueil, il dévoile avec humour leur propre défaut des Occidentaux, les défauts de poésie. Il ne s'agirait plus de la poésie abstraite, malarméenne, à la recherche d'une poésie plus sûre, mais du refus des Occidentaux de regarder leurs actes en face et de troubler leur imaginaire par la poésie des autres. Pour lui, la trace du poème ne peut être remplacée par la mémoire des musées occidentaux, à l'exception de quelques tableaux ou collections du musée de MoMA ou de l'Ermitage, les musées surtout thématiques ou spécialisés, récapitulatifs du passé, la nuit. Il leur substitue son propre musée imaginaire. Il tenta même de le réaliser grâce au projet avorté de créer à Lamantin un musée martiniquais des arts des Amériques. Il le concevra comme l'encyclopédie de ce que nous ne savons pas encore, mais qu'il faut trouver. Il s'agirait de colliger les traces non ethnographiques, non convenues ni folkloriques, mais vivantes, de passé et de lieu. Son musée serait expérimental, il le veut politique, mais pas politicien, dépourvu de la structure solennelle des monuments, faisant coexister différents temps et mémoires en fonction de chaque œuvre. Musée en contact avec le monde, avec la nature tropicale qui serait intégrée dans le musée, permettant aux œuvres de vivre. Jamais réalisé, ce musée est devenu nomade ou virtuel, traverse désormais l'inconscient collectif. Ce musée toujours en devenir rappelle le monument en devenir, théorisé par Gilles Deleuze. Pour Deleuze, tout poème est un monument, car tout monument est une ritournelle de traits, lignes et vibrations. Car pour Deleuze, un monument ne commémore pas, ne célèbre pas quelque chose qui s'est passé, n'actualise pas un événement virtuel, mais il confie à l'oreille de l'avenir la souffrance toujours renouvelée des hommes, leur protestation recréée, leur lutte toujours reprise. Monument de révolution, selon Deleuze, serait conçu comme un tumulus auquel chaque nouveau voyageur apporterait une pierre. Ces monuments de vies oubliées auraient plu à Glissant car ils ne reproduiraient pas le passé, ils marqueraient ce qui manque. Deleuze aurait appris à Glissant que ce qui manque, ce n'est pas ce qui a été abîmé, la culture dépossédée. Cette idée que Deleuze développe avec plusieurs variantes à partir d'une phrase de Paul Klee, disant le mettre en exergue de son roman Sartorius et du manifeste pour le produit de haute nécessité, il la réinterprète dans la Cohète de la Montagne. Glissant aurait remarqué que dans une variante, le peuple qui manque désigne les hommes de Yonapatofa, pays réel rêvé de Faulkner, qui pour Glissant est une des sources littéraires de créolisation. Deleuze rappelle à Glissant que l'absence de mémoire se compense par la fabulation et la poésie. S'identifiant au contexte de son enfance, Glissant invente par exemple les Batutos, peuple mythique d'Afrique, qu'il fera vivre par le langage. Les Batutos, comme le peuple qui manque, c'est Deleuze, n'est pas un peuple hypothétique, mais présent. Il est juste invisible, traverse le temps sans laisser de traces, pour transformer l'absence, la dépossession, le manque en la destinité et renverser l'excès de visibilité de l'histoire occidentale. Pour rappeler que l'invisibilité est ambiguë, n'opprime pas seulement, aussi elle libère. Et ce peuple ne devient invisible que par trahison. Ce qui manque donc, c'est que la poésie, la fonction fabulatrice, charge de dénoncer politiquement cette trahison pour qu'on voit enfin ce peuple et ses nouvelles luttes au fond des bidonvilles, camps et ghettos, de dissiper ses propres illusions, les rêves des écrivains et autres complots montés contre eux par les États. S'il est vrai qu'il cite la description de ce peuple par Christian Salmon comme un peuple d'immigrés, écartelé entre la côte de Londres et la côte de Bobé à la naissance duquel nous assistons, il s'en compte cercer le peuple qui manque et son art abîmé bien plus profondément sous les cultures dominantes. Nous cherchons le Batutos, écrit-il, partout où le malheur nous porte. Nous interrogeons cet art occidental qui les dépeint sans les voir. Tous ces arts, ces tableaux de maîtres, ces magnifica et gloria, ces retables, ces manuscrits, ces statues d'église, ces cariatides de marbre ou de stuc. Car ce qui manque est la relation, une poésie sans certitude, à partir d'une culture incertaine et tremblée au sens physique, géologique et mental, qui ne rencontre pas mais qui se dit, qui passe par les récitatifs, la répétition, les listages, contre toute rhétorique, récit, fiction et histoire. Envie de démentir la fable des colonisateurs qui refusent qu'un tel peuple ait jamais existé. Si bien que la poésie relation de ce peuple saurait à la fois relier, relayer et relater le monde, faire converser ces traces, présence possible et impossible, voire trahie, dans ce que Glissant appelle le tout-monde. Ce chaos monde que Glissant définit, entre autres, comme une nouvelle région à côté du monde lui-même, en dessous du monde lui-même, et confondu avec le monde lui-même, ou comme il est éteinte dans une mer oubliée, n'est qu'une image renversée de l'abîme, de l'absence, du manque originaire. Finalement, le tout-monde est la trace démesurée d'un peuple disséminé en tous les peuples invisibles, politiquement rien, mais poétiquement tout, une mémoire fabulatrice qui excède ce qu'elle est vers le futur. Il ne répare pas les abîmes, mais qui se souvient du futur. In extremis, on comprend que si l'œuvre de Glissant avait une finalité, c'était d'assembler ce qu'il appelle les mémoires du futur, d'écrire en fonction de ces mémoires, de quitter le lieu du souvenir pour une mémoire collective autant que prophétique, prophétisant le passé et promettant le futur. C'est pour cette raison qu'il définissait l'histoire sans grande H comme la prémonition du passé et la littérature comme la mémoire du futur, en rappelant même à nous tous que ce que nous n'oublions pas, ce peuple invisible est futur à jamais. Je vous remercie. Votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Merci d'avoir pu replacer un peu l'histoire de la trace, cet élément si cher à notre marraine Michèle Perrot, que vous avez magnifiquement défini comme une errance qui oriente vers des histoires abîmées. J'ai trouvé ça très beau. Alors, est-ce que vous avez quelques questions avant la pause déjeuner bien méritée? Alors, moi, j'avais une question pour vous, Angelos. Édouard Glissant, c'est un homme qui paraît plein de paradoxes, parce que pour un homme qui définit l'architecture comme une sottise, vouloir créer un musée en Martinique, un musée qui est quand même le musée qui est l'épigone de l'Occident, en Martinique, finalement, heureusement que ça ne s'est pas fait. Ça aurait été peut-être trahir... ce qu'il était, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, vous avez peut-être raison que c'est un paradoxe, mais je ne pense pas qu'il le voyait comme ça. Il explique dans plusieurs pages, surtout des entretiens, qu'il voudrait vraiment ce musée. Il voudrait le créer parce qu'il pensait justement tout ce qu'il avait en lui. Il dit que c'est l'encyclopédie de ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire tout ce qu'il avait dans sa tête, il voulait le réaliser dans un lieu. Et en même temps, pratiquement, il voudrait faire un musée pour l'art américain, c'est-à-dire de l'Amérique latine surtout, et qu'il finalement, il a essayé de le faire de manière immatérielle, puisqu'il n'a pas pu le faire réellement, mais il a contacté les peintres, les sculpteurs, etc. Il a fait un réseau finalement, mais sans le musée. Donc non, c'est un paradoxe, mais non, il pensait qu'il fallait un musée d'un autre type, qui finalement ne serait pas organisé de manière rationnelle et évidemment, comment dire, hiérarchisé. C'est ça, c'était les deux éléments, les deux éléments qu'il voudrait changer, c'est-à-dire faire un musée qui serait plutôt, comme il dit, intégré dans la nature, par exemple. Il avait pensé que la jungle, par exemple, ce serait à l'intérieur même du musée, etc., etc. Donc, il pensait qu'il faudrait réintégrer l'art dans la nature. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement un paradoxe, mais c'est une différence, oui.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Ma question est pour Madame Bertin. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question relative aux cadeaux ou aux dons, puisque, comme vous l'avez dit, en fait, il y a une part dans la collecte des objets qui relève de ce don. Et est-ce que vous avez travaillé justement sur les conditions de ce don? Vous avez dit que ça relève de traditions orales. Enfin, ça peut c'est associé par les acteurs à des traditions orales. Est-ce que vous-même, vous avez travaillé sur ces conditions sociales et institutionnelles de dons ou de cadeaux, je ne sais pas quelle est la qualification exacte pour les acteurs de ces objets Kanak. Merci.
Merci pour votre question. Alors, je n'ai pas travaillé de manière approfondie sur vraiment. Il faudrait reprendre en fait chaque objet en faisant ce qui est devenu aujourd'hui beaucoup plus commun, des recherches de provenance. Initialement, le projet d'inventaire du patrimoine Kanak dispersé donc, était quand même mobilisé avec très peu de personnes. Donc, c'est un travail qui n'a pas pu être mené de manière approfondie. Et moi-même, n'ayant pas du coup participé à l'inventaire, je n'ai pas eu l'occasion de travailler vraiment en détail pour reprendre l'histoire des provenances et des collections. En tout cas, on retrouve effectivement dans la mémoire orale des... certains, aujourd'hui, les objets qui sont dispersés peuvent être aussi réinvestis justement d'une parole kanak et sont repris par le peuple kanak actuel comme étant justement des objets qui relèvent d'échanges et qui donc portent une parole kanak actuelle et passée à travers le monde. Mais est-ce une réappropriation et un sens contemporain? Ou est-ce que cela a été le cas au 19e siècle et au 20e siècle au moment des collectes? Ça, c'est quelque chose dont on a. Il faudrait vraiment investir sur chaque objet de manière. Sur les 17 000 objets de manière tout à fait approfondie.
Merci beaucoup. Est-il une ultime question? Non. Très bien. Je vois les signes. Nous allons manger. Merci à tous les deux. Merci à toutes et tous. Et on se retrouve à 14h45. Merci beaucoup. À tout à l'heure.